Les lumières du festival. Chronique quotidienne du festival Lumière. Jour 2, lundi 10 octobre. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième de nos chroniques du festival Lumière sur Transistor. Et aujourd'hui nous commençons avec Adieu ma concubine de Chen Kaige. C'est un film qui raconte l'histoire de deux jeunes enfants, Dieyi et Xiaolu, élevés dans une école où ils apprennent l'opéra. Alors c'est l'opéra traditionnel de Pékin, cet opéra très particulier de musique, de chant et de danse traditionnelle. Ils sont élevés dans cette école où ils subissent de très mauvais traitements de la part de leur maître. C'est extrêmement dur. On leur fait subir un entraînement physique et moral d'une très très grande dureté. Et ça forge une entraide très forte entre ces deux garçons. Entraide très forte qui petit à petit deviendra aussi très ambiguë, surtout du point de vue de Dieyi. Très ambiguë et jusqu'à ce que Dieyi avoue carrément son amour pour Xiaolu au moment où celui-ci se mariera avec Yuxian, une ancienne prostituée jouée magnifiquement par Gong Li. Et donc ces deux enfants apprennent l'opéra traditionnel et au bout d'un moment deviennent très connus dans Pékin. Et leur carrière de scène les fait traverser toute une tranche de l'histoire chinoise. Donc le sommet de leur carrière intervient au moment de l'occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils traversent ensuite la libération et puis toute la révolution culturelle jusqu'à la mort de Mao. C'est vraiment un film qui traverse l'histoire de la Chine au XXe siècle. Et à travers toutes ces époques, Dieyi joue inlassablement son rôle de concubine dans l'opéra Adieu ma concubine, donc un opéra traditionnel qui raconte l'histoire d'un roi et sa concubine, histoire tragique. Dieyi joue inlassablement tandis que Xiaolu abandonne peu à peu son rôle de roi pour sa vie d'époux. Cette histoire, c'est celle de la disparition de ces personnages dans une forme d'obsolescence, au sens où on voit s'installer un décalage progressif avec leur époque qui s'immisce petit à petit dans leur vie. Ils sont, oui, au fait de leur carrière, au moment où l'histoire chinoise bascule. Et petit à petit, l'opéra et ce dont ils ont fait leur vie devient complètement obsolète. L'opéra Adieu ma concubine auquel le film se compare sans arrêt, auquel l'histoire des personnages est sans arrêt ramenée, est une véritable tragédie. Et à la fin de l'opéra, le roi se rend, la concubine se tranche la gorge avec son épée, c'est finalement ce à quoi revient le film lui-même. Alors, quant à savoir ce que j'ai pensé de ce film, c'est extrêmement compliqué. Un gros point noir, c'est que ces opéras traditionnels chinois me tapent sérieusement sur le système avec leurs chants suraigus et que c'est assez dur d'apprécier la beauté de certaines scènes du coup. Mais malgré tout, l'histoire est vraiment très 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 touchante. Les images sont splendides, même si la copie n'a pas été restaurée. On voit que c'est un très très beau film. La splendeur est évidente dans ce film, mais j'ai l'impression parfois de ne pas y accéder. C'est-à-dire que je vois vraiment dans ce film une civilisation complètement différente de la mienne, et je sens que c'est extrêmement beau, mais ça reste hermétique. Malgré tout, je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre, parce que c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma chinois, et ça reste une très très belle expérience. Et tout de suite, nous retrouvons Pierre qui a vu Sans retour de Walter Hill.
C'est ça. Alors, Sans retour, donc c'est un film de 1981 qui est pas mal parce que du coup là il y a une rétrospective Walter Hill en ce moment parce qu'ils sortent enfin ils sortent le nouveau film en fait avec un peu d'avance. Je crois qu'il ouais, il sort à Lyon et à Montréal et c'est tout. Et du coup il est là donc ils lui ont posé sa petite plaque et ils font une rétrospective de 3-4 films dont Sans retour, mais je crois que c'était la seule diffusion de Sans retour sur le festival. Alors en gros, l'histoire, c'est 9 soldats de la National Guard de Louisiane qui font une mission de reconnaissance au milieu des bayous. Donc les bayous, c'est là où se passe le premier Bernard et Bianca, hein, voilà, pour varier les références ciné. Et donc c'est une espèce de terre un peu de marécage, un peu glauque avec un peu de brume, voilà. Et donc ces 9 personnes-là qui sont 9 personnages qu'on apprend à connaître au fur et à mesure. Alors bon, la plupart on finit par connaître leur nom, des petits éléments de vie, mais c'est toujours un peu bon, voilà, c'est toujours un peu dans la demi-teinte, un peu dans la subtilité. Certains on finit par apprendre vraiment à les approfondir, d'autres moins. Voilà, c'était très hétéroclite. Ça fait une petite galerie de personnages un peu tous un peu minables, certains un peu fous, un qui est un peu un dealer. Voilà, un sergent, un caporal plutôt, absolument pas charismatique, un Texan qui se retrouve là sans trop savoir pourquoi, un garçon des villes qui rêve de s'envoyer les prostituées le soir, enfin voilà, ce genre de personnage, et il se retrouve pour cette mission de reconnaissance, donc au milieu des marécages, quasiment sans armes, enfin juste avec des balles à blanc, et le but étant juste de marcher pendant une journée, je sais plus combien de bornes il faut qu'il fasse, et en fait... Il se retrouve à se heurter aux Indiens cajuns. Alors, enfin, je dis Indiens, c'est même pas forcément des Indiens, c'est juste des locaux qui parlent une espèce de français qui est absolument incompréhensible, mais qui d'ailleurs n'est pas sous-titré en plus, donc c'est très perturbant parce que c'est les seuls personnages, on ne comprend pas du tout ce qu'ils disent. Et en fait, il se heurte aux cajuns et la situation dégénère et il se retrouve en quelque sorte pris en traque par ces indigènes, en fait, mais qui eux maîtrisent le terrain et qui. Voilà, de toute évidence, veulent leur peau. Et donc ça donne une espèce de film qui doit être une sorte de mélange d'Apocalypse Now et de Deliverance. Qui, voilà, donc c'est assez marrant. Bon là le bon alors du coup, ben, le film n'est pas encore restauré, donc la qualité d'image n'était pas ouf. Et des fois, c'est vrai que ça détruisait un peu l'expérience, mais il y a une énorme tension jusqu'à la dernière scène qui est assez incroyable. Enfin, cette espèce de quête un peu des survivants qui vont essayer de se tirer de marécage. Enfin, ça donne quelque chose de un peu glauque, en même temps avec de l'action et avec une profondeur, enfin une certaine subtilité quand même. Le traitement fait des personnages est vraiment pas mauvais aussi.
D'accord, et eh bien merci beaucoup Pierre pour cette chronique. Eh bien, nous n'allons pas très très loin de cette ambiance avec le dernier film dont nous parlons aujourd'hui, Répulsion de Roman Polanski avec Catherine Deneuve. Alors le film est un film d'épouvante, qui est un film de commande. On a dit un jour à Polanski, ouais, viens faire un film en Angleterre, on te le paye, fais-nous un film d'horreur. Et bon, Polanski a dit oui, génial. Et c'est comme ça qu'est née Répulsion, qui suit une certaine Carole Ledoux, manucure belge vivant à Londres, avec sa sœur, et dont on sent dès le début qu'elle est un petit peu perturbée, elle est perpétuellement ailleurs. Elle est complètement indifférente aux avances d'un jeune homme qui se font de plus en plus pressantes. Elle n'est pas du tout là mentalement pendant son travail. On a toujours l'impression qu'elle est un petit peu à côté d'elle-même. On ne sait pas trop quelle est la vie intérieure de ce personnage. Et puis, à un moment, sa sœur part en vacances quelques jours. Et là, la jeune femme va s'enfermer dans l'appartement et sombre dans la schizophrénie la plus totale. Et du coup, commence à avoir des visions, à agir d'une façon de plus en plus malsaine, jusqu'à assassiner sauvagement les deux personnes qui tentent de lui rendre visite, et donc dans une espèce d'acmé de folie et de violence. Alors c'est un film que Polanski lui-même considère comme mineur, mais il porte vraiment en germe une bonne partie de tout ce que le cinéaste a pu montrer plus tard de violence, de folie et de perversion dans la façon dont fonctionne la psychologie de ce personnage extrêmement perturbé et les moyens formels qu'il utilise pour rendre compte de la folie sont très intéressants aussi. On a des cadres extrêmement perturbants, des cadrages hollandais bizarres. Voilà, le noir et blanc, les lumières sont assez inquiétantes, très très ternes. Et puis enfin, il y a le regard apeuré et effrayant de Catherine Deneuve qui signe là l'un de ses premiers rôles et où on voit déjà toute sa puissance d'incarnation dans ce film d'épouvante qui ne fait plus tellement peur aujourd'hui, mais qui est une expérience très très intéressante. C'était Les Lumières du Festival, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Pierre Lebrun.